إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شهر رمضان، وحديثنا اليوم عن مفطرات الصوم. دونك ceci est la 11e assise, les assises du Ramadan, dans laquelle nous allons parler, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, des annulatifs du jeûne. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. الله سبحانه وتعالى dans le verset 187 de sourate Al-Baqarah, il dit عز وجل dans le sens cohabitez donc avec elle, avec vos épouses. Cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. En ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les bases des annulatifs du jeûne, les annulatifs principaux du jeûne qui sont au nombre de trois cités dans ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir le rapport avec son épouse, le fait de boire et de manger. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans sa sunnah nous a expliqué le reste des annulatifs du jeûne. Les annulatifs du jeûne sont au nombre de sept. Al-awwalul jima' wa huwa ilaju adh-dhakari fil farj wa huwa a'zamuha wa akbaruha ithman. Le premier annulatif du jeûne, c'est le rapport intime avec son épouse. Et lorsque l'on dit le rapport, on parle de la pénétration. Lorsqu'il y a pénétration, eh bien, le rapport est présent et le jeûne est annulé. Et c'est le plus grand annulatif. C'est celui le plus grave. Une personne qui a un rapport avec son épouse, alors qu'il est en état de jeûne, son jeûne devient nul. Son jeûne devient caduc, que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Et si ce rapport a eu lieu dans la journée de Ramadan, alors que le jeûne est obligatoire pour la personne, il doit alors rattraper ce jeûne et faire la grande expiation. Al-kaffaratu al-mughallagha wa hiya 'itqu raqabatin mu'minah. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. Et la grande expiation, c'est d'affranchir un esclave croyant, sachant que cela n'est plus possible à notre époque, eh bien, il devra jeûner 2 mois consécutifs. Il devra jeûner 2 mois consécutifs sans rompre, sauf pour une raison islamiquement acceptée. Illa li'udhrin shar'i. Comme par exemple les jours de l'Eid. Il ne va pas jeûner les jours de l'Eid, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, car il est interdit de jeûner ces deux jours. De même pour les jours de Tashriq, le 11e, 12e jour et 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Il a la possibilité également de ne pas jeûner lorsqu'il a une raison physique de ne pas le faire, comme lorsqu'il est malade ou lorsqu'il voyage un voyage qui n'a pas pour but uniquement de rompre. Car certains pourraient dire, voilà, moi je vais voyager juste dans le but de ne pas jeûner ce jour-là. Dans ce cas, cela n'est pas accepté de lui, et s'il le fait dans cette intention-là, eh bien, il devra recommencer son jeûne de 2 mois à partir de ce jour-là. Donc lorsque c'est un voyage qui est légitime, un voyage qui est légitime et qui n'a pas pour but uniquement d'être considéré comme voyageur et ainsi de ne pas jeûner. Si il ne jeûne pas pendant cette période de 2 mois consécutifs, s'il ne jeûne pas un seul jour sans raison valable, alors il devra recommencer son jeûne à partir du lendemain et devra jeûner ces 2 mois consécutifs jour après jour. S'il n'a pas la possibilité de jeûner 2 mois, فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. Alors il nourrira 60 pauvres. À chaque pauvre, il donnera l'équivalent de 510 grammes de blé de bonne qualité. Et dans le hadith rapporté par مسلم في الصحيح أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. Un homme a eu un rapport avec son épouse pendant le mois du Ramadan, pendant la journée du Ramadan. Il a alors questionné le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam lui a dit, as-tu un esclave? Il a répondu non. Es-tu capable de jeûner 2 mois, c'est-à-dire 2 mois consécutifs, comme cela est rapporté dans d'autres versions du hadith? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, nourris alors 60 pauvres. Ceci était donc le premier annulatif du jeûne. الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك. Le deuxième annulatif, c'est l'éjaculation volontaire. Que cette éjaculation soit la conséquence du fait qu'il s'embrassait lui et son épouse, ou qu'il se caressait, ou que cette éjaculation ait lieu par la masturbation, ou tout autre moyen. Car ce plaisir est un plaisir qui doit être abstenu pendant le jeûne. Comme cela est rapporté dans le hadith Qudusi, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, où Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du jeûneur, dit « Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli » Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses plaisirs pour moi. Donc le fait de prendre du plaisir pendant l'état de jeûne est contraire à l'état de jeûne, car le jeûneur s'abstient de boire, de manger et d'avoir un plaisir charnel. Et lorsque l'on dit une éjaculation volontaire, même par masturbation, cela ne signifie pas que la masturbation est autorisée en islam. Elle est interdite, comme l'ont démontré les savants. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah Azza wa Jalla, en parlant d'avoir des rapports avec son épouse, et Allah Azza wa Jalla dit, et celui qui recherche un autre moyen en dehors de cela, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ce sont eux qui ont outrepassé les limites. Sauf si cela se fait entre un homme et son épouse. Naam. Quant au fait de s'embrasser, lorsque le mari et son épouse s'embrassent, ou lorsqu'ils se caressent, sans que cela n'ait pour conséquence d'éjaculation, alors cela ne rompt pas le jeûne. Et la preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im walakinahu kana amlakakum li'irbihi. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait en état de jeûne et qu'il caressait en état de jeûne, mais c'était parmi vous celui qui avait la meilleure maîtrise de soi. Wa fi hadith Umar ibn Abi Salama annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayuqabbilu as-sa'im fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sal hadhihi يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. Et dans le hadith de Amr ibn Abi Salama rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, le jeûneur a-t-il le droit d'embrasser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, demande à cette femme, demande à une telle, c'est-à-dire Umm Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam. Elle lui a alors informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, embrasser en état de jeûne. Puis cet homme a dit, ô envoyé d'Allah, mais toi, Allah Azza wa Jal, t'a pardonné tes péchés antérieurs et passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu, quant à moi par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous et celui qui a le plus peur d'Allah parmi vous. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saurait désobéir à son Seigneur, et que si il embrasse ses épouses alors qu'il est jeûneur, et si il les caresse alayhi salatu wassalam, il ne fait pas un interdit dans cela. Il ne fait pas un interdit dans cela, un interdit qui lui serait pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait car cela est autorisé. Car cela est autorisé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, était celui qui avait la meilleure maîtrise de soi alayhi salatu wa sallam. Donc en termes d'autorisation, cela est autorisé. Sauf si le jeûneur qui se connaît a peur que découle de ces moments intimes avec son épouse soit une éjaculation ou soit un risque d'avoir un rapport intime, car cette personne sait qu'elle ne peut pas maîtriser sa personne dans tous les cas, ou dans certains cas elle ne peut pas se maîtriser Ainsi, celui qui est dans ce cas de figure, il lui sera interdit d'embrasser ou de caresser, car ces choses intimes pourraient l'amener à commettre l'interdit. Or, ce qui amène à commettre l'interdit, les moyens qui amènent à commettre l'interdit, sont eux-mêmes interdits. Ainsi, embrasser et caresser son épouse pour celui qui sait qu'il n'y a aucun risque d'outrepasser les limites d'Allah Azzawajal, alors cela est autorisé. Pour celui qui sait qu'il ne sait pas se maîtriser, alors cela devient pour lui interdit. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint celui qui fait ses ablutions à insister lorsqu'il nettoie son nez, sauf lorsqu'il est en état de jeûne. وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Et accentue dans l'aspiration de l'eau dans tes narines lorsque tu fais les ablutions, sauf en état de jeûne. Car si tu fais cela en état de jeûne, il y a un risque que de l'eau traverse tes narines et passe par ta gorge. Quant au fait d'avoir une éjaculation suite à un rêve érotique, ou par simple pensée, qui ne sont pas suivis de quelconque action, cela n'annule pas le jeûne. Car, concernant les rêves érotiques, ils ont lieu de façon involontaire. Ils ont lieu de façon involontaire, et celui qui, durant son sommeil, a vu un rêve érotique qui a eu pour conséquence une éjaculation, il n'a pas fait cela de son propre gré, de façon volontaire, cela s'est fait de façon indépendante de sa volonté. Quant aux pensées, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala n'en tient pas rigueur. La preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. Il dit عليه الصلاة والسلام: Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas rigueur de ce que des pensées de ma communauté, tant qu'elle n'agit pas ou ne parle. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas compte de nos pensées. C'est-à-dire de ce que tu te dis dans ton for intérieur. Tant qu'il n'y a pas d'action derrière cela. Et cela a des jugements dans le fiqh. Par exemple, celui qui a une pensée dans laquelle il souhaite faire un vœu, par exemple. Il a une pensée dans laquelle il souhaite faire un vœu pour Allah Azzawajal de jeûner, par exemple, 10 jours. Il ne l'a pas prononcé, c'est juste une pensée. Vous savez que le vœu, lorsque la personne, un musulman, fait un vœu, il se doit de s'en tenir. Yufuna bin nadhr, ils mettent en application leur vœu, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis je fais le vœu à Allah de jeûner 10 jours, ces 10 jours deviennent pour toi obligatoires à jeûner. Si tu le dis, si tu le prononces. Ou par exemple, tu as une pensée dans laquelle tu offres telle ou telle somme à telle personne. Le professeur Hassan nous a interdit de revenir sur nos donations. Lorsque tu reprends quelque chose que tu as donné, cela revient à a avalé son vomi. A vomir et a réingurgiter, c'est ça ? Réingurgiter son vomi. Donc, lorsque tu donnes quelque chose, tu ne reviens pas sur ta donation. Lorsque tu le prononces. Mais lorsque c'est une simple pensée, cela n'est pas pris en compte. Et ceci est une spécificité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jalla ne tient pas compte de nos pensées tant que nous ne formulons pas une phrase, tant que nous ne parlons pas tant que nous ne parlons pas et ne nous agissons pas. Pour cela ici que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah considère que celui qui éjacule suite à des simples pensées sans aucune action de sa part, que cela n'annule pas son jeûne. Le troisième annulatif, al-aklu aw ash-shurb, le fait de boire ou de manger. C'est-à-dire le fait de faire parvenir de la nourriture ou de la boisson dans le corps, que ce soit à travers la bouche ou à travers le nez, quelle que soit la nature de cette nourriture ou de cette boisson. Car Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu dans le verset précédent, a dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ » Et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ici Allah Azza wa Jal a dit « buvez et mangez » c'est-à-dire buvez et mangez de façon générale sans définir la nature de cette nourriture ou la nature de cette boisson, bien sûr, tant que celle-ci est licite. Et le fait d'introduire de la nourriture ou de la boisson à travers le nez revient à boire et à manger. La preuve et le hadith cité précédemment de l'Aqit ibn Saboura radiallahu anhu, en lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ, et accentue sur l'istinshaq, sur le fait d'introduire de l'eau dans ton nez lorsque tu fais tes ablutions, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Ainsi, ce qui arrive à la gorge et qui a été introduit par le nez de façon volontaire, eh bien, est considéré comme de la nourriture, comme avoir mangé ou avoir bu. Quant au fait de sentir des odeurs, cela n'annule pas le jeûne, car les odeurs ne sont pas des matières qui ne sont pas de la matière qui est introduite dans le corps de la personne. Le quatrième annulatif, الرابع, ما كان بمعنى الأكل والشرب. Quatrièmement, ce qui a le jugement de la nourriture et de la boisson, comme par exemple les transfusions. Les transfusions qui ont pour but de nourrir et de renforcer la personne. Ces transfusions qui sont administrées et qui remplacent le fait de boire et de manger. Celui qui se fait transfuser une matière nourrissante, eh bien cela est considéré comme annulatif du jeûne. Car même si cela n'est pas de la nourriture et de la boisson concrète, mais cette transfusion a le sens et a les effets de cette nourriture. Ainsi, elle a le même jugement. Quant aux transfusions qui ne sont pas nourrissantes, elles n'annulent pas le jeûne. Que cela soit injecté de façon intramusculaire ou même de façon intraveineuse. Même si ces substances qui ne sont pas nourrissantes, la personne en ressent le goût. En ressent le goût au niveau de sa gorge. Le fait de ressentir le goût de ce médicament qui a été injecté ou cette substance qui n'est pas nourrissante, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Car ce n'est ni de la boisson, ni de la nourriture, et ils n'ont pas le jugement de la boisson et de la nourriture dans le sens où ce n'est pas une substance qui est nourrissante. أما النوع الخامس فهو إخراج الدم بالحجامة. Quant au cinquième annulatif du jeûne, c'est le fait de faire une saignée, de sortir du sang par la saignée. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Ont rompu leur jeûne celui qui a pratiqué la saignée et celui qui se l'est vu pratiquer. Et c'est le madhhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, et la majeure partie des fuqaha du hadith. Et entre dans le jugement de la saignée, le fait d'extraire du sang par ce qu'on appelle la phlébotomie, qui est le fait d'inciser une veine dans le but de faire sortir du sang. Ou tout autre moyen par lequel on extrait du sang qui reviendrait à, ou qui ressemblerait à une saignée. Car dans une saignée, il y a une grande quantité de sang qui sort du corps. Et cela affaiblit le corps. C'est pour ça que le professeur sallam l'a interdit pour le jeûneur, car celui qui fait une saignée, il voit tout de suite ses facultés s'affaiblir. Ainsi, il n'est pas autorisé au jeûneur qui jeûne un jeûne obligatoire de faire un don du sang, car lorsque l'on donne de son sang, eh bien, il y a une quantité grande de ce sang qui est extraite de ton corps, et ceci affaiblit considérablement ton corps, donc cela est interdit. Sauf si il y a un cas de force majeure, si une personne a perdu énormément de son sang et qu'elle a besoin d'une transfusion en urgence, eh bien, il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas d'autre moyen que tu donnes de ton sang pour sauver cette personne, alors tu le fais, car c'est un cas de force majeure, mais tu rattraperas ce jour. Tu rattraperas ce jour. Quant au saignement dû, par exemple, les saignements du nez, ou les saignements qui peuvent être la suite d'une toux, ou les saignements dus à des hémorroïdes, ou des saignements dus au fait d'enlever une dent, ou de soigner une plaie, ou de faire une prise de sang dans laquelle on extrait une quantité non importante de sang qui n'a pas d'influence sur ton état physique, eh bien cela ne rompt pas le jeûne, cela n'annule pas le jeûne, et cela n'est pas assimilé à une hijama. As-sadisu at-taqayyu'u 'amdan. Le sixième annulatif qui est le fait de vomir volontairement. Qui signifie vomir volontairement, c'est le fait de faire sortir ce qu'il y a dans ton estomac comme nourriture ou comme boisson par la bouche. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man zara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qada'un wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Rawahu al-khamsa illa an-Nasa'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui subit un vomissement, c'est-à-dire que le vomissement l'a surpris et il ne peut pas le contrôler. C'est un vomissement involontaire de sa part. Ce vomissement a le contrôle, a pris le contrôle de son corps. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَى. Celui dont le vomissement est ainsi, il n'a pas à rattraper son jour de jeûne. Par contre, celui qui se fait volontairement vomir alors qu'il rattrape son jeûne. Celui qui se fait volontairement vomir en utilisant quelques moyens que ce soit pour arriver à sa fin. Comme par exemple le fait de compresser son estomac ou le fait de rentrer une chose ou de rentrer son doigt par exemple dans sa gorge ou le fait de sentir une odeur tout en sachant qu'en sentant cette odeur eh bien cela va provoquer ce dévomissement ou le fait de regarder une chose tout en sachant qu'en regardant cette chose eh bien cela va provoquer chez lui un vomissement. Tout ceci annule le jeûne. Tous les vomissements qui ont eu lieu de ces façons différentes, de façon volontaire, annulent le jeûne. Quant aux vomissements qui n'ont pas de cause, eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Et lorsqu'une personne sent que des vomissements arrivent, il sent que au niveau de son estomac, il y a des choses qui ne vont pas, et que son estomac commence à travailler dans le but de d'expulser ce qu'il y a dans son sein, eh bien il ne doit pas, il n'est pas obligatoire pour lui de se retenir et d'empêcher ce vomissement, car cela peut lui être néfaste. Allah Azza wa Jal, le tout sage, a créé le corps humain d'une façon parfaite. Ce corps humain qui s'autogère, ce corps humain qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, expulse toute chose néfaste qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc si ton estomac travaille dans le but d'expulser ce qu'il y a dans son intérieur, cela est dû à une nourriture malsaine que tu as mangée ou des microbes indésirables qui doivent être expulsés à l'extérieur de ce corps. Ainsi, le fait d'empêcher ce vomissement peut être néfaste et peut t'amener à garder en toi des choses qui peuvent te nuire. السابع خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. Le septième annulatif du jeûne, c'est l'apparition du sang, des menstrues ou des lochies. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme: la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, ne prie pas et ne jeûne pas. Ainsi, la femme, lorsqu'elle voit le sang des menstrues ou le sang des lochies, son jeûne s'annule automatiquement. Que cette apparition ait lieu au début de la journée ou à la fin de la journée, même quelques instants avant le coucher du soleil. Ce jeûne de ce jour-là est d'office annulé. Et si la femme sent que du sang se déplace à l'intérieur de son corps, mais ce sang n'apparaît qu'après l'apparition, qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne est valide. Car ce qui annule le jeûne pour la femme qui a ses menstrues, ce n'est pas les sensations qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais c'est bel et bien l'apparition de ce sang, que ce soit le sang des menstrues ou que ce soit le sang des lochies. Ainsi, le jeûneur ne doit pas faire, il ne doit pas commettre ses annulatifs du jeûne lorsque son jeûne est un jeûne obligatoire, comme le jeûne de Ramadan ou comme le jeûne d'expiation, celui qui a juré par exemple et qui doit jeûner 3 jours, ou celui qui a fait un vœu de jeûner, comme on l'a vu tout à l'heure, il devra obligatoirement jeûner ces jours-là, sauf si il a une raison valable, comme le voyage ou la maladie. Quant au jeûne surérogatoire, il a le droit de le rompre quand il le souhaite, même sans raison, mais bien sûr, le mieux est de terminer son jeûne surérogatoire, de terminer le jeûne de ce jour surérogatoire. Mais en termes d'autorisation, il a le droit de le rompre à quelque moment que ce soit, même s'il n'a pas de raison valable. Voici les annulatifs du jeûne dont doit s'abstenir le jeûneur. Il doit préserver son jeûne et délaisser toute forme de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois du Ramadan, de façon particulière, qui est un des piliers de l'islam, nous devons le préserver, nous devons l'accomplir de la meilleure et de la plus complète des façons. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.